Jérôme Broussera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez AXA Investment Managers. On va parler avec vous d'actualité sur ces marchés. Commençons, si vous voulez bien, peut-être par l'économie, ce qui a pu changer un petit peu la vision qu'avaient les investisseurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on est sur une croissance peut-être plus faible de l'économie mondiale? C'est ce qui, aujourd'hui, est en train de se mettre en place?
Oui, alors effectivement, nous avons revu nos prévisions de croissance, notamment pour 2016, un petit peu à la baisse, avec une prévision autour de 3,1%. Pour matérialiser justement le ralentissement de l'économie chinoise. Si l'on regarde les bonnes nouvelles, on se dit qu'aujourd'hui l'environnement est plus stable qu'il y a 3 mois. Dans les facteurs positifs également, il y a le soutien de la croissance américaine qui devrait tourner autour de 2,4% l'année prochaine, toujours soutenu par une consommation domestique importante et ça restera la locomotive de cette croissance mondiale. La zone euro, ça va pas mal aussi, ça s'améliore. On a des prévisions autour de 1,4%. La zone euro bénéficie bien sûr de la dépréciation de sa devise, ce qui a permis de consolider la compétitivité des entreprises. Et en même temps, elle bénéficie d'une demande qui est en croissance. Et donc ça soutient l'économie d'une manière générale. Le point important, et je dirais, qui est l'attention des marchés, c'est la Chine, de combien le ralentissement aura lieu, est-ce que tout est déjà intégré dans les prix? Alors, le ralentissement de la Chine, il s'explique par deux facteurs principalement. Donc, il y a les facteurs cycliques et les facteurs plus structurels. Les facteurs cycliques, c'est la quantité de dettes que doivent porter les gouvernements locaux, notamment pour faire face au marché immobilier qui décroît. Et les facteurs plus structurels, ça va être lié au changement de modèle, la migration d'un modèle d'une économie industrielle vers une économie des services, ou autrement dit, comment est-ce que la migration se fait des exportations vers une consommation domestique plus importante.
On en a vu de ce point de vue-là, tout récemment, la consommation d'acier, qui est un petit peu quelque chose que regardent de près les économistes, chuter de manière spectaculaire en Chine. On regarde toujours ça pour dire quand est-ce que ça va repartir. Pour l'instant, on voit effectivement que c'est très difficile.
Oui, alors c'est un bon indicateur, effectivement, pour mesurer la vigueur de l'économie chinoise. Ce qu'on voit de positif, et notre économiste local le mentionne régulièrement, c'est que les autorités monétaires font tout ce qu'elles peuvent pour justement maintenir un niveau de croissance important. Et il ne vous a pas échappé qu'au cours de la dernière année, les autorités monétaires ont déjà opéré 6 baisses de taux. Donc ça montre bien cette préoccupation qu'on a auprès des autorités pour soutenir la croissance mondiale.
Oui, on a vu même là encore cette semaine l'enfant unique devenir deux enfants finalement autorisés pour les couples chinois. Donc on sent bien que tout est fait pour retrouver peut-être une croissance un peu plus importante.
Oui, alors c'est important également de voir que le rôle de la Chine est prépondérant notamment auprès des pays émergents, puisque ça risque de conditionner un peu le retour de cette croissance sur les pays émergents qui, eux, vont être très sensibles, notamment à ce qui va se passer aux États-Unis également, puisque le risque pour les pays émergents, c'est que les flux de capitaux sortent. Et du coup déstabilise la zone au profit d'une zone dollar.
Alors, de ce côté-là, c'est vrai que les investisseurs ont été pas mal ballottés par la réserve fédérale américaine. En septembre, ils ont mal pris quelque part le discours de la réserve fédérale. Là, ils commencent à se dire peut-être que maintenant, on arrive enfin à cette hausse de taux. La lecture de ce que fait la Fed reste toujours un peu compliquée.
Tout à fait. La Fed a péché par excès de confiance et a envoyé un message assez flou au cours de l'été, au mois de juin, au mois de septembre. Et du coup, les anticipations de hausse de taux ont navigué tantôt en septembre, puis en décembre, puis en 2016. Là, la probabilité aujourd'hui que la hausse des taux se matérialise en décembre est de 50%, donc ça revient un petit peu. Pour nous, ce qui est important, ce n'est pas tellement le point d'entrée, ce qui est important, ça va être la dynamique de hausse de taux et la cible, le taux cible. Et c'est dans ce contexte-là qu'on observe les agissements de la Banque centrale américaine. Et si on regarde en parallèle, on voit que la Banque centrale européenne, elle, est dans un mode d'assouplissement quantitatif qui devrait se prolonger de manière quasi certaine après septembre 2016, avec donc prolongation de la maturité, pourquoi pas élargissement de la base d'actifs de sous-jacents à acheter et peut-être une augmentation de la taille du bilan à travers de nouveaux instruments. Donc tout ceci montre qu'on arrive dans une période de divergence où la normalisation va s'opérer de la part de la Fed et de la part du Royaume-Uni. Et de l'autre côté, on a un bloc zone euro-Japon qui reste en mode d'assouplissement quantitatif.
Alors là, on pourrait se dire, les boursiers qui ont un peu d'ancienneté sur les marchés se diraient, ah oui, mais ça, divergence, ça rappelle la Bundesbank, ça rappelle le 94. C'est scénario noir, bien entendu, mais c'est pas celui qui est aujourd'hui mis en avant.
Non, pour nous, c'est plus une zone d'opportunité, puisque cette divergence de politique de banque centrale va entraîner une divergence de taux d'intérêt. Et cette divergence de taux d'intérêt pour un investisseur obligataire va être une opportunité d'arbitrage. En plus, on peut dire que les conditions qui sont mises en œuvre pour restaurer les anticipations d'inflation, parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, c'est la mission, hein. Aujourd'hui, on est loin de la cible de 2%, mais tant que les anticipations d'inflation ne remontent pas, il y aura ce soutien et cette espèce de bouclier Banque centrale européenne pour soutenir les actifs.
Oui, parce que là, on voit, on a encore eu des chiffres récemment sur les rendements négatifs en Europe et le volume hein, d'émissions, c'est des trillions, 2-3 trillions effectivement d'euros qui sont ou de dollars qui sont effectivement négatifs en Europe.
Oui, c'est le problème. Les primes de terme sont négatives sur beaucoup de courbes de taux d'intérêt core, hein, les US, le UK sur les parties courtes, la zone euro. Et la normalisation opérée par la Banque centrale américaine, la Fédérale Réserve, va avoir tendance à justement restaurer ces primes de terme pour qu'il y ait un peu plus de rendement dans les marchés obligataires.
Alors, on a parlé de cette volatilité du mois de septembre. Pour l'investisseur aujourd'hui, justement, sur sa stratégie d'investissement, puisqu'il y a quand même eu des opportunités, comment vous évolue votre stratégie?
Alors, c'est bien de le dire, la volatilité est de retour sur les marchés, mais en fait, ce n'est pas tellement la volatilité en elle-même qui est importante, c'est les épisodes de volatilité qui vont se multiplier. Il faut que l'investisseur obligataire et actions soient préparées à un nombre croissant d'épisodes de volatilité. Donc dans ce contexte, ce que nous on privilégie, c'est pas tant les stratégies directionnelles, parce que les taux vont avoir tendance à se normaliser et ça c'est pas un drame, mais c'est pas vraiment là où il y a des opportunités. Ce que l'on favorise surtout, c'est les stratégies de portage. Les stratégies de portage donc qui vont permettre d'apporter du rendement dans un portefeuille obligataire. Et dans ce contexte-là, nous on met en avant plusieurs classes d'actifs, l'allocation périphérique au sein de la dette souveraine, donc notamment l'Italie, le Portugal ou l'Espagne. Je rappelle que l'Italie fait 5,5% de performance depuis le début de l'année, ce qui est assez impressionnant et assez contre-intuitif quand on regarde les niveaux de taux d'intérêt du début d'année. L'Espagne va bien également. Donc de la valeur sur les spreads périphériques, mais de la valeur sur le crédit euro également, de la catégorie investment grade, notamment sur les financières. Nous privilégions également une allocation sur le high yield américain et high yield euro. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une réappréciation des primes de risque et cette prime de risque est aujourd'hui bien plus intéressante qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc en termes de valorisation, c'est intéressant. Et nous pensons également que les fondamentaux, notamment aux États-Unis et en zone euro, sont bien meilleurs car ces entreprises à yield ont bénéficié de conditions de financement extrêmement intéressantes au cours de ces dernières années. Le dernier élément que nous mettons en avant et auquel nous croyons sont les break-even d'inflation. Nous pensons vraiment que les anticipations d'inflation vont remonter, notamment dès lors que les effets de base négatifs liés à la baisse du prix du pétrole seront complètement effacés. Et ça va se produire fin d'année 2015, tout début d'année 2016. Donc voilà pour l'allocation que nous préconisons sur le portage.
Merci Jérôme Broustrad d'avoir fait le point avec nous.
Merci.